France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour. Du 28 novembre au 5 décembre 1941, s'est tenue à Vienne une semaine Mozart du Reich allemand à l'occasion des 150 ans de la mort du compositeur. Les nazis en avaient profité pour faire du musicien un archétype arien, un parfait modèle de l'artiste allemand. Le régime avait également fait les choses en grand puisqu'il n'hésita pas à inviter des personnalités du monde musical d'une vingtaine de pays. La France dépêcha pas moins de 22 ambassadeurs, de Marcel Delannoy à Florent Schmitt, en passant par Lucien Rebattet et Arthur Honegger. Ils rendirent compte de l'événement avec enthousiasme et souvent avec zèle. Aller dans le camp ennemi ne suppose pas obligatoirement l'adhésion à sa cause, se défendit Honegger après-guerre. Réponse avec mes invités Cécile Quenet et Marie-Hélène Benoît-Otis, qui viennent de décrire ce Mozart 1941 qui vient de paraître aux presses universitaires de Rennes. De Mozart, c'était le début de la 41e symphonie dite Jupiter, l'orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par Karl Böhm. Un enregistrement qui date de 1949. Bonjour Cécile Quenet.
Bonjour.
Bonjour Marie-Hélène Benoît-Otis.
Bonjour.
Vous êtes toutes deux musicologues et vous venez d'écrire donc pour les presses universitaires de Rennes, Mozart 1941. La semaine Mozart du Reich allemand et ses invités français. Alors, je vous propose qu'on s'occupe d'abord de la semaine Mozart du Reich allemand. On parlera des invités français. Ensuite, le régime était familier de ce genre de célébration pour les grands hommes, les grands artistes allemands. Mozart en 1941, ça tombait bien, le calendrier, ses 150 ans, était à portée son aide, mais c'était pas non plus un événement si exceptionnel.
Ah, c'est pas un événement isolé, ça c'est tout à fait certain, ni au sein du régime nazi, ni dans la plus longue histoire intellectuelle et culturelle de l'Allemagne.
De l'Allemagne,
en fait.
Ouais.
Donc le fait de célébrer les grands compositeurs dans des grandes occasions comme l'anniversaire du décès, l'anniversaire de la naissance aussi, c'est quelque chose qui existait depuis au moins le milieu du 19e siècle. Et ce que les nazis ont fait, en fait, c'est reprendre ce modèle antérieur-là en y insufflant une idéologie un petit peu différente qui visait évidemment à en profiter pour exalter le régime. Ils ont pas fait ça qu'avec Mozart. Ils ont fait ça avec Bruckner, ils ont fait ça avec Handel, plutôt dans le régime, et d'autres compositeurs aussi. Donc, c'est pas quelque chose d'exceptionnel.
Mmh. Alors, ça tombait bien, c'était vraiment 150 ans, donc c'était quand même un grand événement. Il fallait le célébrer avec le faste requis. Donc, Vienne, qui sera donc le siège de ces festivités, du 28 novembre au 5 décembre 1941. Évidemment, l'Orchestre Philharmonique de Vienne sera sollicité, l'Opéra, le Concerthaus. Karl Böhm, qu'on a entendu en ouverture, sera d'ailleurs le chef qui ouvrira les festivités, donc ce jeudi 28 novembre à 11h au Concerthaus. À côté, il y avait un discours de Baldur von Schirach. Et on apprend assez vite dans votre livre qu'il y a eu tout de suite, comme souvent d'ailleurs dans ce genre d'événements, une rivalité politique entre Vienne et Berlin, entre Goebbels et Schirach.
Absolument. Ah oui, c'est quelque chose. En tant que spécialiste du côté allemand des sources, c'est vraiment mon territoire ici. Et c'est les sources allemandes qui nous ont appris cette querelle entre Schirach et Goebbels. Et ça a été effectivement très, très vif. C'est même très rigolo de lire les documents d'archives parce qu'il y a des lettres qui sont conservées et où les insultes volent relativement bas, en fait. L'idée à la base de faire une célébration Mozart à Vienne pour le 150e anniversaire de sa mort, c'était une idée viennoise, présentée donc par Baldur von Schirach, qui était le gouverneur donc du Reich à Vienne. Mm-hmm. Mais lui, évidemment, devait présenter ça à sa hiérarchie, qui était à Berlin et qui incluait le ministère de la propagande, dirigeait Goebbels. Schirach avait pour ambition politique derrière cette célébration-là de gagner des points avec la population locale viennoise, de bien se placer et de montrer qu'il mettait en avant le statut exceptionnel de la ville de Vienne, ville de la musique, etc. Or, Goebbels, c'était pas trop dans ses intérêts de faire ça. Lui, en fait, son idée était plutôt d'assimiler la ville de Vienne et d'en faire une simple province du Reich et non pas une ville avec un statut spécial. Bien d'ailleurs, la ville autrichienne avec un statut spécial pour Hitler, c'était pas Vienne, c'était Linz. Donc, le Reich central n'avait aucun espèce d'intérêt à ce que les célébrations viennoises de 41 soient présentées comme des célébrations spécifiquement viennoises. Il fallait que ce soit les célébrations du Reich. Et donc, tout au long de l'organisation, ça a été une lutte perpétuelle quant à savoir qui allait se mettre en avant le plus pour que ça finisse par avoir l'air équilibré. Les invités ont visiblement absolument rien perçu de ces luttes-là, mais si on regarde les sources derrière, c'est quand même bien documenté.
Et il y a d'ailleurs un double programme que vous reproduisez d'ailleurs dans votre livre, et c'est absolument passionnant de le découvrir. Il y a un programme, le programme du Reich, qui réunit quand même l'élite, hein, les grands chefs. J'ai dit Böhm, il y a Furtwängler, il y a Knappersbusch, il y a Clemens Krauss, les grands pianistes, Backhaus, Edwin Fischer. Et puis, il y a également le programme de la ville de Vienne, qui est plus, on va dire, plus populaire, plus destiné, on imagine, à la population locale.
Oui, en fait, c'était l'idée à la base et ce programme-là rassemble plutôt des artistes locaux, des chefs qui auraient de toute façon dirigé dans les maisons locales comme le Volksoper pendant cette période-là. La publicité de ce deuxième programme-là, qui officiellement a été créé plus tard que le programme du Reich, ce qui est faux, soit dit en passant, mais dans la publicité officielle, en fait, c'est Schirach qui se présente comme le sauveur des Viennois, qui sans lui n'aurait jamais pu avoir de billets pour le programme du Reich qui s'était rempli prétendument si rapidement. Si on regarde les sources archivistiques, on s'aperçoit que tout ça, en fait, c'est simplement un effet publicitaire, parce que la vérité, c'est que les salles n'étaient pas pleines du tout. Et la vérité, c'est que les deux programmes ont été créés en parallèle dès le départ. Sur un modèle plus ancien, les fêtes Schubert, par exemple, de 1928, étaient conçues exactement comme ça. Donc, il y avait là, encore une fois, rien d'original, mais les nazis s'en sont servis pour faire leur publicité, en fait.
Thank you. le début de la sonate pour piano Köchel 330 de Mozart sous les doigts de Wilhelm Backhaus. Backhaus, un des invités de cette semaine Mozart du Reich de 1941. J'ai parlé dans mon introduction de la récupération par les nazis de Mozart, Mozart arien, Mozart archétype de l'artiste allemand. Déjà, sur l'affiche, cette affiche sur fond rouge, on voit le portrait de Mozart qui tranche avec celui que l'on connaît. On voit de profil avec un nez assez aquilin, un air assez sévère. Je pense que ça, évidemment, c'était dans la stratégie de communication des nazis. Qui veut répondre, Cécile Kellet?
Oui, alors tout à fait, cette affiche, elle est particulièrement frappante parce
que... Qui est reproduite dans votre livre, bien sûr.
Oui, voilà, elle est reproduite dans le cahier d'illustration. Ouais. Cette affiche est vraiment frappante puisqu'on y voit un Mozart, les traits d'un Mozart qu'on ne connaît pas, en fait.
Pas du tout,
on n'a pas du tout les quelques portraits qui ont circulé à travers le temps, puisqu'on a ici donc un profil très sévère. On a le même habit rouge qu'on trouve sur d'autres portraits, mais cette fois, cet habit est très sévère, il est presque rigide comme un uniforme. Et donc, on a un profil aussi qui peut rappeler le profil de l'aigle qui tient sur l'affiche, donc une reproduction de l'aigle qui représente l'Allemagne, qui tient la croix gammée. Et donc on a ici une sorte de rappel de profil de l'aigle, voilà, de correspondance. Et c'est vrai que cette affiche rassemble aussi un peu toutes les informations principales sur la semaine Mozart, puisqu'on a aussi les principaux organisateurs, on en parlait tout à l'heure, Schirach et Goebbels, et évidemment viennent les dates. Et tout cet ensemble comme ça qui présente Mozart comme la principale vedette, alors qu'en fait on s'aperçoit que c'est le Reich qui se célèbre lui-même.
Bien sûr. Ouais. Alors justement dans cette auto-célébration du Reich, sous prétexte de fêter les 150 ans de la mort de Mozart, il y a cette réappropriation, cette façon de réécrire aussi l'histoire, parce que les nazis sont penchés sur le passé de Mozart, sur ses parents. On voit qu'ils s'arrangent un petit peu avec ce qu'il faut, avec la figure de Mozart, musicien universel qui voyage, qui est passé en France, qui aime l'Italie. Tout ça a été mis quand même en réserve. On met en avant Mozart, l'inventeur, le créateur de l'opéra allemand.
Et pas seulement de l'opéra allemand, mais de la musique allemande en général. C'est vraiment le Mozart allemand qui est mis de l'avant. C'est d'ailleurs le titre de toute une série de publications qui paraissent en 1941, aussi bien des livres que des articles. Et en fait, ce que font beaucoup d'auteurs, musicologues entre autres, c'est de relire les lettres de Mozart pour aller y chercher tous les éléments qui font référence
qui font allusion, oui, c'est ça, oui.
Tout ce qui peut ressembler à l'Allemagne. En passant évidemment sous silence que quand Mozart disait allemand, il parlait d'un espace culturel, d'un espace linguistique.
Évidemment.
Et pas du tout d'un État-nation, et encore moins d'un Reich conçu comme le Troisième Reich. Ça n'avait strictement rien à voir. Et en fait, à ça ajoute une démarche généalogique qui vise à montrer que les ancêtres de Mozart sont allemands, mais jusqu'au bout des orteils, depuis le 12e siècle, en utilisant ici aussi une géographie un peu créative qui fusionne la géopolitique de l'époque de Mozart avec celle du Troisième Reich. Et donc, ça fait en sorte qu'on peut déclarer allemands tous les ancêtres de Mozart, malgré le fait qu'en réalité, ça colle pas du tout.
Mais alors, il y avait comme un problème, c'est que il est présenté comme allemand, purement allemand, mais également on le présente comme la figure du musicien universel. Alors, comment est-ce qu'on peut jouer avec les deux, à la fois allemand et universel?
Ben, c'est un des grands paradoxes, en fait, du discours nazi sur non seulement Mozart, mais beaucoup de grands compositeurs. C'est qu'ils vont chercher cet appel à l'universalité à partir, justement, de l'appel à la germanité. Mozart est pas, c'est pas une opposition, en fait, cette idée de Mozart allemand versus Mozart universel. Mm-hmm. Mozart est universel parce qu'il est allemand. Il est tellement allemand et la germanité, c'est tellement quelque chose d'universel qu'en étant allemand, il est universel. C'est vraiment une idéologie très nazie, mais en même temps très ancrée dans les nationalistes du 19e siècle, dans lesquels on n'a pas non plus cette dualité entre nation et universalité. On a vraiment une continuité entre les deux et les nazis ont vraiment capitalisé là-dessus.
Constanze, diesmal. für nun freuen, nun freuen, und bringe mich ans Ziel, und bringe mich ans Ziel. Gib mir dafür nun freuen, nun freuen, bringe mich ans Ziel und bringe mich ans Ziel und bringe mich und bringe mich ans Ziel und bringe mich und bringe
Le premier air de Belmonte dans l'enlèvement au sérail de Mozart, c'était Anton Dermotta, l'orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par Rudolf Moralt, tous trois très sollicités lors de cette semaine Mozart. C'était l'enregistrement du 6 septembre 1944. Cécile Quesnay, alors cette délégation française, je l'ai dit en introduction, il y a eu 22 Français qui sont venus, c'était la délégation la plus importante, hein, que le régime nazi avait lancé une vingtaine, je crois, d'invitations, enfin vers une vingtaine de pays, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Une vingtaine de pays ont été sollicités, pays amis, alliés, neutres ou occupés, qui devaient en fait faire circuler et surtout médiatiser cet événement qui était conçu pour rayonner à travers toute l'Europe et même le monde entier. Les Français ont été particulièrement important au sein de ces invités. En fait, c'est la délégation la plus importante numériquement, avec 22 personnalités invitées. Et c'est aussi celle dont on parle en permanence dans la presse. Et là, il y a un enjeu qui est vraiment très important pour les Allemands, qui est de donner l'illusion d'une normalité pour les Français occupés, qui sont occupés seulement depuis 1940, l'été 40, et donner un sentiment de continuité et surtout les séduire les élites pour qu'elles transportent ensuite la bonne nouvelle et que l'opinion soit effectivement favorable à la propagande et au régime.
L'Allemagne avait déjà procédé ainsi, on se souvient de quelques mois avant, je crois un ou deux mois avant, ce fameux voyage des écrivains en Allemagne, parmi lesquels il y avait Brasillach, Fernandez et tout ça. Ça avait déjà, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce voyage des musiciens, des personnalités du milieu musical français,
ça s'inscrit dans un.
Voilà, tout à fait. S'inscrit dans une démarche de séduction des élites intellectuelles, des artistes français, visant toujours à favoriser ensuite la réception, l'opinion publique. Et donc, il y a eu en octobre 41 un premier voyage d'écrivains à Weimar. Il y a eu des plasticiens le mois suivant, des acteurs. Et ensuite, fin 42, encore à nouveau une délégation d'écrivains, mais ça a beaucoup moins bien fonctionné. Et puis surtout, à partir de 1942, on n'est plus du tout dans cette idée d'une propagande douce, de séduction. Là, ça va être à partir de fin 41, début 42, le passage à la répression. On n'est plus du tout dans la collaboration donnant-donnant, mais dans une répression de plus en plus violente de tous les opposants. Et on n'est plus du tout dans cette façon d'amener madouer comme ça les élites.
Mais puisque vous parlez du contexte politique et même militaire, Cécile Quesnay, il faut rappeler que en juin 41, il y a eu quand même un grand basculement puisque il y a maintenant le front de l'Est qui occupe l'armée allemande. Donc la situation est déjà beaucoup plus tendue quand même en 41.
Voilà, tout à fait. La situation est déjà très tendue. Et fin 41, les premières répressions en France sont connues et les musiciens qui acceptent l'invitation ne peuvent pas ne pas savoir ce qui se passe. Donc il y a une connaissance, ils partent en connaissance de cause, ils acceptent une invitation en connaissance de cause, et c'est ça qui leur sera reproché par la suite.
Alors, parmi ces 22 personnalités, il y a à la fois des responsables d'institutions musicales, de l'opéra, du conservatoire, des membres de l'institut comme Florent Schmitt. Il y a finalement assez peu de musiciens, d'artistes, d'interprètes. Il n'y en a qu'une seule.
Alors, il n'y a qu'une seule interprète, c'est Vina Bowie.
La seule femme, d'ailleurs.
Voilà, la seule femme. Il y avait aussi l'épouse de musicienne de l'abbé, qui était un compositeur de la Schola Cantorum. Mais donc seulement deux femmes, ce qui est assez peu étonnant. Et Vina Bowie, la seule interprète, qui est une chanteuse, qui a fait une carrière à l'opéra comique, principalement. Et qui a accepté cette invitation. Beaucoup d'autres personnalités ont été approchées ou même invitées. On pense qu'une trentaine, quarantaine d'invitations ont été envoyées. Et il faut savoir qu'à chaque fois, les nazis faisaient une petite enquête pour savoir si c'était des personnalités a priori
fiables.
Ce qui comptait beaucoup, c'était aussi leur rayonnement.
Bien sûr.
Des personnalités célèbres et aussi des journalistes, puisque l'enjeu étant, comme on le disait tout à l'heure, faire un écho le plus vaste possible. Notamment, en particulier dans la presse.
Ah oui, alors on lit donc, on apprend, on découvre en lisant votre livre, les témoignages effectivement des invités, on voit qu'ils sont reçus dans des conditions absolument luxueuses, qu'ils ont une immense chambre, ils ont des cigares, ils mangent dans les meilleurs restaurants, et qui contraste évidemment avec la vie qu'ils connaissaient en France.
Oui, alors, tout à fait. C'est un luxe, je pense, assez relatif, mais pour un pays, et surtout pour des Parisiens, parce qu'ils sont pour la plupart Parisiens, donc qui vivent donc des moments où personne ne mange à sa faim. Et donc, il y a un contraste effectivement saisissant. Ils sont invités tout frais payés. Et pour eux, se retrouver dans il y a un sentiment de ville de paix en dehors des zones de combat, il n'y a pas de couvre-feu. Et donc à Vienne, ils ont l'impression d'être dans une sorte de parenthèse. Et évidemment, tout ça rentre dans le souci de d'orloter comme ça ces invités internationaux pour leur montrer que l'Allemagne est une civilisation raffinée et qu'elle sait célébrer son patrimoine.
Un extrait du 25e concerto pour piano de Mozart, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé depuis le piano par Edwin Fischer, un enregistrement du Festival de Salzbourg, d'août 1946. Alors, je disais en introduction, Arthur Honegger se défendait en disant que aller dans le camp ennemi ne suppose pas obligatoirement l'adhésion à ses causes. Aujourd'hui, en 2019, quel recul a-t-on, quelle conclusion peut-on tirer, avez-vous tiré, Cécile Quesnay et Marie-Hélène Benoît-Otis, sur ce voyage et ces 22 Français qui se sont rendus à Vienne en 1941?
C'est une question qui est très complexe et très délicate. Oui. Parce que, évidemment, nous, en tant qu'historienne, notre rôle n'est absolument pas de juger, ni non plus de disculper ou d'accuser qui que ce soit. En fait, ça a été une dynamique qui a été très, très présente dans les premiers écrits sur les musiciens sous l'occupation. Et nous, on a vraiment voulu essayer de se garder le plus loin possible de cette dynamique-là. Cela dit, se poser la question des implications morales, des implications politiques d'un tel voyage, c'est évidemment incontournable. Et on peut pas tout simplement exonérer les participants en disant « Ah, mais ce n'était que de la musique, il n'y a aucune implication politique. » En fait, ça soulève la question du rôle politique de l'art, plus ou moins, qui est une question tout à fait fondamentale.
Oui, et précisément cette question du rôle de la musique et de cette autonomie de la musique revendiquée précisément par des invités et au cœur aussi de notre réflexion, puisque après-guerre, on a reproché effectivement à ces 22 invités français d'avoir fait ce voyage à Vienne. Et beaucoup ont répondu, il ne s'agissait que d'une collaboration artistique. Ils ont vraiment suivi une ligne de défense apolitique, qui a été la ligne de défense suivie par de nombreux journalistes, y compris Rebatté d'ailleurs, qui était extrêmement impliqué. Mais on voit bien que pour certains, il s'agissait d'un voyage vraiment de collaboration. Et précisément, Rebatté a écrit qu'il s'agissait d'un pèlerinage encore plus nazi que mozartien, ce qui montre bien qu'il allait dans la Vienne d'Hitler pour observer, pour admirer un régime qui était vraiment son modèle.
Très bien, merci beaucoup Cécile Quenet, Marie-Hélène Benoît-Autis. Je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre ouvrage passionnant, Mozart 1941, la semaine Mozart du Reich allemand et ses invités français. Ça vient de paraître aux presses universitaires de Rennes. Il y avait aujourd'hui à la réalisation David Travailleur, à la technique Bastien Varigo, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.